Les vacances peuvent véritablement débuter ce matin pour près de 750 000 jeunes. Ils ont reçu leur solution d'orientation. Parcoursup, la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur, a rendu son verdict. La phase principale s'est achevée à minuit hier soir. Et pour en parler ce matin, Marie-Céline Daniel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la vice-présidente de la Sorbonne Université, la fusion de Paris-Sorbonne et de Pierre et Marie Curie, si c'est bien ça.
Ça,
vous confirmez. Vous êtes vice-présidente aussi de formation tout au long de la vie et de la commission formation et vie universitaire. Parcoursup se félicite cette année d'avoir été plus rapide. Vous confirmez ?
Oui, enfin c'est pas forcément à l'échelle de l'établissement, c'est pas forcément l'impression qu'on a. Après, à l'échelle individuelle, il est tout à fait effectivement visible que les étudiants se sont, enfin les lycéens se sont positionnés plus vite. Ça, c'est positif.
Vous n'êtes pas allé plus vite pour les inscriptions ? Pas encore.
C'est deux choses différentes. Oui. Donc ça, pour le coup, ça n'a rien à voir. En revanche, nous, on a un taux de remplissage de nos formations qui est moindre que celui de l'année dernière à la même date.
Hier, selon le dernier chiffre du ministère, il y avait encore quand même 90 000 candidats sans affectation pour l'an prochain. Ça reste beaucoup quand même.
Ça reste beaucoup. Alors, il faut évidemment regarder ce que ça représente en proportion. Et en fait, ça veut dire que 90% des étudiants globalement ont eu une proposition. Enfin, des lycéens.
C'est 90 000 sur 840 000.
Voilà, exactement. Mais effectivement, il est évident que les situations individuel de ces 90 000 candidats est anxiogène, très inconfortable, et ça on l'entend. Ceci étant, la phase complémentaire qui a commencé depuis quelques semaines et qui va s'accélérer désormais...
Qui devrait dure jusqu'au 16 septembre, c'est
jusqu'au... ça ? Oui, enfin, eux ils peuvent se positionner jusqu'au 14 septembre et nous on a jusqu'au 16 pour leur répondre. Ça devrait, comme tous les ans, permettre aux lycéens de se positionner finalement avant la rentrée.
Les syndicats étudiants disent que c'est encore trop, 90 000 sans affectation. Ils disent aussi qu'en fait, on a qu'un chiffre d'affectation, on n'a pas de taux de satisfaction. On ne sait pas combien de jeunes ont eu ce qu'ils voulaient en premier choix ou en dernier choix, parce qu'en fait, il n'y a plus de hiérarchie dans les choix, c'est ça ?
C'est ça, il n'y a plus de hiérarchie dans les choix. C'était la grosse différence entre APB, l'ancien système, et Parcoursup. Ce qu'il faut voir néanmoins, c'est que nous, du côté des universités, on a quand même le sentiment, globalement, que les étudiants, quand ils arrivent en première année, sont un peu, se sentent plus à leur place qu'avant. Donc c'est difficile de savoir s'ils sont effectivement arrivés là où ils le souhaitaient. En tout cas, on a le sentiment que le travail préliminaire porte relativement ses fruits et que on a en tout cas plus les cas qu'on avait dans APB de gamins qui étaient là et qui savaient pas du tout pourquoi ils étaient là. C'était le système qui les a fait affecter chez nous. On a le sentiment que ces cas-là, quand même, ils doivent continuer à exister de manière marginale, mais globalement, ils se sont résorbés.
APB, ça s'appuyait sur un système de tirage au sort pour les filières sous tension. Parcoursup, maintenant, ça s'appuie sur les notes du contrôle continu. Est-ce qu'il y a des professeurs, des établissements qui gonflent les notes, surtout cette année où il y a eu moins de cours ?
Ce qu'on a constaté dans les commissions d'examen des vœux, qui sont celles qui examinent les dossiers des lycéens, c'est qu'effectivement les notes étaient très hautes cette année. Voilà. Elles ont été très hautes partout, globalement, donc...
Tous les établissements ont gonflé un petit
peu
les dossiers.
Oui, mécaniquement, mais c'est pas. Enfin, je pense que si on regarde la façon dont les universités ont noté les étudiants, elles ont aussi été indulgentes compte tenu du contexte, du fait que les cours ont été suspendus. Donc oui, c'est un effet. Après, le dossier n'est pas constitué que des notes. Il y a la fiche à venir. Ils ont quand même de quoi développer leur projet, leur motivation. Donc, bon, à partir du moment où tout le monde est à peu près, effectivement, on a noté une inflation, clairement. Mais il n'est pas évident que ça vienne perturber l'efficacité ou la justesse des classements derrière.
Et puis on manque de recul aussi sur la réforme des lycées. La notation des enseignements de spécialité, c'était une difficulté aussi.
Il y a eu un télescopage un peu malheureux, mais qui était, malheureusement, on pouvait pas y faire grand chose. Entre la pandémie d'un côté et la réforme du bac, c'est vrai que ça a été compliqué. Il faut que tout ça s'installe, donc on n'est pas très inquiet. On pourra peut-être faire un bilan de tout ça dans 3-4 ans, quand on aura une cohorte entière qui, on l'espère, aura fait cours normalement et aura pu s'épanouir.
Sur les réseaux sociaux, ces dernières semaines, ces derniers mois, on a vu des excellents élèves dire « moi j'avais 16 de moyenne et j'ai rien eu ». C'est justement parce que les notes ont peut-être été un peu gonflées, qu'ils avaient 16 de moyenne ou 17 de moyenne, mais qu'ils étaient 20e dans leur classe ?
Oui, absolument. Alors ces cas, ils existent tous les ans. Hein. Tous les ans, on a un peu d'actu médiatique sur le fait que un élève mentionne très bien pas eu d'affectation. Bon, d'abord, il y a 70% des bacheliers aujourd'hui qui ont une mention, donc il faut quand même relativiser le sens de tout ça. Et effectivement, voilà, les notes, on a des moyennes. Moi, dans ma discipline, en anglais, tous les candidats ont 16 de moyenne.
Ah oui, quand même.
Voilà, enfin, je veux dire, donc oui, il y a eu une inflation. Mais encore une fois, bon, ça, c'est, voilà, il se trouve que c'est cette année et ça, on va gérer.
Il y a quand même un problème d'opacité avec ce Parcoursup. Le 27 mai dernier, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a dénoncé cette opacité des critères de sélection.
Oui, c'est un quelque chose qu'on reproche, mais les universités doivent pouvoir garder la main sur la façon dont elles examinent les candidatures. C'est un principe de base que les jurys sont souverains. Donc il n'y a pas de raison qu'ils ne le soient pas là. Néanmoins, les étudiants...
Mais pourquoi on ne rend pas public ces critères en disant « Nous, on veut recruter des étudiants qui ont des bonnes notes là ou qui montrent telle compétence ?»
Mais ça, on le fait. Et il faut bien voir que les attendus sont votés par les conseils centraux et ils sont publics. Et de fait, les étudiants qui souhaitent avoir des infos précises sur la façon dont les dossiers sont évalués peuvent les demander à titre personnel. Mais c'est différent de leur permettre de savoir que de publier des données qu'ils ne vont pas avoir les moyens d'analyser réellement. Pour prendre le cas de ma discipline qui est l'anglais, on s'est rendu compte que les meilleurs étudiants étaient ceux qui avaient le meilleur niveau de français.
D'accord. Donc c'est pas forcément les notes en anglais.
L'expérience prouve que nos meilleurs étudiants, ce sont les étudiants qui ont les meilleures notes en français, pas les meilleures notes en anglais. Donc voilà, mais ça c'est pas évident de dire voilà, on va aller regarder les notes de français si on n'explique pas. Il n'est pas évident qu'un candidat comprenne bien pourquoi lui, bilingue, il serait moins bien classé qu'un élève francophone qui a eu de meilleures notes en français. Pourtant, c'est la réalité des choses.
Il faut préciser que chaque établissement établit ses critères dans l'algorithme.
Non seulement chaque établissement, mais chaque commission d'examen des vœux. Donc ça se fait, et ça c'est quand même une garantie, ça se fait au plus près des formations par les enseignants qui ensuite auront les étudiants face à eux.
La CNCDH émet aussi une réserve sur la non-anonymisation des lycées d'origine dans Parcoursup. Les lycéens des milieux défavorisés serait lésé, selon la Commission nationale.
C'est peut-être une chose sur laquelle il faut travailler. Il faut faire attention à l'anonymisation. Il y a eu tout un sujet sur supprimer garçon-fille les prénoms. Voilà. Il faut faire attention à ça. Nous, on n'y est pas défavorable. C'est pas forcément une mauvaise idée de dire voilà, les étudiants sont gérés, enfin les lycéens sont évalués en dehors de leur lycée, enfin sans que leur lycée soit mentionné. Après, il faut pas être trop naïf sur le fait que, en fait, les questions que ça pose, on va les retrouver, on va retrouver les adresses, on va retrouver plein de choses. Les prénoms, typiquement, on a dit on va supprimer les prénoms, mais dans tous les bulletins scolaires, il y a les prénoms qui figurent à toutes les lignes. Donc, il faut faire attention.
C'est impossible de rendre ça anonyme.
C'est un petit peu difficile, et pour le coup, c'est peut-être beaucoup d'efforts pour des conséquences qui sont pas forcément très tangibles derrière sur la façon dont les classements sont faits.
Parcoursup, ça a 3 ans et se pose toujours la question quand même aujourd'hui d'un recrutement avec une intelligence artificielle. Certains disent que ça manque encore d'humains pour recruter ces jeunes et leur donner un avenir, leur donner une perspective d'études supérieures.
Oui, mais je pense que c'est une incompréhension, alors plus généralement, mais c'est pas vraiment le débat de ce que c'est que l'intelligence artificielle. Ce sont des systèmes de classement qui ont été élaborés par des enseignants qui ont l'habitude d'avoir les étudiants devant eux, ça c'est quand même une première chose. Et ensuite, il faut bien voir que derrière, il y a des formes de carottage qui sont faites sur les premiers classements qui sont sortis où on vérifie des incohérences. S'il y a entre le 100e et le 101e un énorme écart, les commissions d'examen des vœux vont aller regarder les dossiers dans le détail pour savoir pourquoi ça décroche. Donc ça, je pense pas que ce soit un vrai reproche à faire au système parce qu'en réalité, le classement la machine est conçue par l'homme d'abord, et ensuite parce que effectivement les classements sont corrigés derrière. Donc voilà. Après, il faut bien regarder juste le réalisme de 15 000 vœux, enfin 15 000 candidats qui se positionnent sur une formation. Il faut bien pouvoir faire un tri.
Cette année, parmi les candidats de Parcoursup, il y avait évidemment beaucoup de lycéens qui sortaient de terminale. Il y avait aussi beaucoup d'étudiants en réorientation. Des candidats à la réorientation, il y en avait 5% de plus par rapport à l'année dernière. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de décrochages en première année cette année?
Oui, alors peut-être. Nous, ce sont pas les chiffres qu'on a à l'échelle de Sorbonne Université, mais on n'est pas forcément représentatif. Mais clairement, il y a dû en avoir. Il faut effectivement, normalement, dans une année normale, en fait, il y a de la réorientation, mais qui peut se faire à l'intérieur de l'université. Ce qui peut être arrivé, c'est que cette année, en fait, ils ont complètement décroché et donc ils ont loupé le coche. Et donc, du coup, il a fallu qu'ils se repositionnent.
Ils n'étaient pas à l'université en plus. C'était peut-être plus compliqué.
Ils n'ont pas eu les infos. Ouais. Enfin, c'est tout à fait possible. Donc, effectivement, il y a plus de réorientation. C'est pas forcément véritablement un problème. On sait gérer ces cas-là. On a mis un certain nombre de choses en place pour pouvoir les détecter en raison de leur année de bac. Et ils vont pouvoir se réinsérer. Ça, c'est pas vraiment un problème pour nous.
Il nous reste quelques secondes. Je voudrais parler de la rentrée prochaine. Comment ça s'annonce? Masque obligatoire pour tout le monde? Présentiel?
Alors, ça va dépendre des universités, j'imagine.
Mais à
Sorbonne Université, évidemment, le masque, on voit pas très bien comment on y échappera. En revanche, rentrer en présentiel, on l'espère.
Et le vaccin?
On fait tout. On incite nos étudiants à se vacciner, évidemment, et on n'a pas fini de le faire. Il faut absolument qu'ils soient vaccinés pour qu'on puisse faire cours le plus longtemps possible et le mieux possible dans les amphis. Mais pour nous, c'est absolument essentiel que la rentrée se fasse sur les campus.
On pourra se faire vacciner grâce à l'université?
On va voir ce qu'on fait. Il n'est pas sûr qu'à Paris, centre-ville, ce soit forcément absolument essentiel, mais en tout état de cause, clairement, ils auront toutes les infos qu'il faut.
Merci beaucoup, Marie-Céline Daniel, d'être venue ce matin dans le studio de France Inter. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de Sorbonne Université. Je vous souhaite une bonne journée.
Bonne journée.
France Inter.